y a trois pouvoirs en Égypte et Morsi en possédait déjà, ou en contrôlait déjà deux. Il contrôle l'exécutif puisqu'il est président et que le 12 août 2012, par une déclaration constitutionnelle, il a repris les pouvoirs exécutifs que l'armée s'était arrogé par le passé. Donc à partir du 12 août 2012, il a le contrôle de l'exécutif. Et puis parce que le Parlement ayant été dissous au mois de juin 2012, il contrôle aussi de fait le pouvoir législatif. Donc le dernier pouvoir qui restait indépendant de la présidence, c'était le pouvoir judiciaire.
Et ce pouvoir judiciaire qui est le seul vrai contre-pouvoir actuellement, a-t-il vraiment les moyens de s'opposer au président ?
Il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la gouvernance de Morsi, qui est ce recours devant la justice contre l'Assemblée constituante, qui a été donc formée à partir du Parlement lui-même dissous. Et un certain nombre de partis ont déposé des recours donc devant la justice pour dissoudre cette Assemblée constituante. Assemblée constituante dominée par les islamistes, puisqu'elle-même nommée par un Parlement à dominante islamiste. Et l'une des raisons pour laquelle Morsi a décidé de bouger ces derniers jours, c'est parce qu'il veut préserver l'Assemblée constituante d'un risque de dissolution. Et donc, selon ses détracteurs, faire passer un peu de force une constitution dont l'écriture relève essentiellement donc d'une assemblée qui est dominée par les islamistes.
Est-ce que Mohamed Morsi se prend pour un nouveau pharaon, comme l'en accusent ses opposants ?
Il a d'abord effectivement remplacé par exemple le procureur général, et ça c'est quelque chose que, y compris le camp révolutionnaire, demandait depuis longtemps, parce que le procureur général était un ancien de l'époque Moubarak. Il y a aussi dans l'appareil judiciaire un certain nombre de gens qui sont affiliés à l'ancien régime, et qu'un certain nombre de révolutionnaires aussi demandaient de voir remplacer. Simplement, Morsi s'est pas contenté, entre guillemets, d'épurer l'appareil judiciaire, il est allé beaucoup plus loin dans sa déclaration constitutionnelle, puisque d'abord il a de fait déclaré que toutes ces décisions étaient à l'abri d'une contestation judiciaire, donc ça vaut pour la constituante, mais ça vaut aussi pour tous les décrets présidentiels pris par Morsi, et il est même allé encore plus loin en disant, avec cet article 6 de la déclaration constitutionnelle, qu'il se réserve le droit de prendre toute mesure d'exception nécessaire pour protéger, je cite, les acquis de la Révolution. Évidemment, ça donne à Morsi des pouvoirs absolument illimités, et là encore, plus susceptible de recours par aucun contre-pouvoir. De fait, oui, ça place Morsi dans une position tout à fait hégémonique sur les trois pouvoirs, et ça lui vaut la critique de la part de ses opposants d'être aujourd'hui un nouveau pharaon bien plus puissant que Moubarak ne l'a jamais été.
Justement, ses opposants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Est-ce qu'ils en sont arrivés à ne pouvoir que tonner comme le fait Mohamed El Baradei ?
Passé qui est assez peut-être intéressant, et à mon avis c'est un développement tout à fait nouveau sur la scène politique égyptienne, c'est que pour la première fois l'opposition aux frères est unie. Cette opposition aux frères, depuis l'élection de Morsi et même avant, elle avait souffert de divisions internes entre des gens qui étaient plutôt révolutionnaires, des gens qui étaient plutôt contre-révolutionnaires, des gens qui étaient plutôt à gauche, des gens qui étaient plutôt à droite, des gens qui étaient plutôt islamo-compatibles, des gens qui étaient plutôt radicalement hostiles aux islamistes. Et bien, ce qu'on voit aujourd'hui depuis le 22 novembre, c'est une union complètement inédite de tous ces courants de l'opposition aux frères qui, pour la première fois, organisent des meetings communs et qui appellent aussi mardi prochain à manifester ensemble. Donc, Morsi est quand même dans une situation assez compliquée du fait que, cette fois-ci, il fait face à une opposition unie et finalement, peut-être relativement forte, parce qu'on a des gens comme Hamdine Sabahi qui ont quand même remporté 20% des voix à l'élection présidentielle, donc qui ont quand même une base populaire assez forte. Et pour peu qu'ils arrivent à mobiliser cette base populaire mardi prochain, l'opposition pourrait être en mesure de faire une vraie démonstration de force. Et on sent d'ailleurs que Morsi perçoit la menace, puisqu'il a lancé une consultation et qu'on dit qu'il est susceptible aujourd'hui peut-être de reculer sur certains des articles les plus polémiques de la déclaration constitutionnelle. Et il a par ailleurs réaffirmé que cette déclaration constitutionnelle était temporaire, qu'elle n'avait pas vocation donc à rester en vigueur très longtemps. Il a même évoqué une date de péremption, entre guillemets, de cette déclaration constitutionnelle en février 2013 pour essayer de rassurer ses opposants. Donc Morsi, aujourd'hui, sent que voilà, il a affaire à une opposition qui est forte et alors on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais il est possible qu'il recule.
Vous pensez que le FMI, que les États-Unis, c'est-à-dire les principaux bailleurs de fonds du gouvernement égyptien, peuvent faire pression sur Mohamed Morsi pour qu'il fasse quelques pas en arrière ?
Oui, et je pense que c'est une pression qui est peut-être aussi efficace que la pression de la rue égyptienne. Parce que les aides du FMI et les aides des États-Unis, là encore, elles sont liées à des conditions de bonne gouvernance et de transition démocratique. Et si Morsi apparaît comme mettant des obstacles majeurs sur la voie de la transition démocratique, ça peut se traduire en une réticence du FMI à verser les aides ou à une réticence des Américains à continuer à payer les 2 milliards de dollars que les États-Unis payent à l'Égypte. Donc, et ça, c'est quelque chose dont l'économie égyptienne a un très très grand besoin. Et on voit que Morsi, depuis son arrivée au pouvoir, est très soucieux de son image à l'international. Il l'a montré récemment sur la crise entre Gaza et Israël en apparaissant comme un médiateur qui est applaudi d'ailleurs par toutes les parties, y compris par les Israéliens. Donc je crois que la pression internationale va compter beaucoup et peut-être autant que la pression de la rue avec cette grande manifestation prévue mardi prochain.